de la Bible nous donne à penser. À charge de prendre, il y a des décisions à prendre, dans la Bible il y en a à prendre. Des décisions qui sont souvent boiteuses, regardez les situations humaines, on va adopter un enfant. Mais parfois quand on adopte un enfant, un peu après, il y en a un autre qui vient, un vrai cette fois.
Très vite, hein.
Parce que quelque chose s'est ouvert. Mais, solution boiteuse, et pourtant finalement bonne solution. Il y a un certain nombre de cas, vous en connaissez tous. Alors voyez, on dit souvent, il y a une loi dans l'Église, une loi en Israël, aberration, mensonge, etc. C'est vrai, une loi, et cette loi est faite pour être respectée. Et en même temps, il y a une miséricorde. Ce sont pas deux, c'est pas deux poids, deux mesures. Il y a une miséricorde qui travaille dans la loi. Et on fait souvent le reproche, quand on lit ceci, quand je lis ce texte avec des personnes qui réfléchissent un peu, ils disent, c'est curieux, combien dans cette histoire des patriarches, on dit peu souvent, je crois même nulle part, que Dieu aime. L'amour vient dans les psaumes, l'amour vient chez les prophètes, mais on dirait que dans la Torah, il intervient quand même dans le Deutéronome certainement, mais il intervient, on ne dit pas que Dieu aime.
Mais on dit qu'il fait alliance.
Voilà, justement. Ah, oui, oui, mais quand on dit qu'il fait alliance, ou quand on dit qu'il est juste, quand on dit qu'il fait, autrement dit qu'il fait confiance, ici il fait confiance à Abraham, en lui demandant, en étant très exigeant, il y a là une réalité d'amour, d'amour qui n'est pas seulement sur le plan horizontal, mais d'un amour à découvrir. L'amour se manifeste d'abord par son action. La manière dont il interpelle les personnes. Il est le premier à interpeller les personnes par leur nom propre. Ça veut dire quelque chose, cela. Mais on dirait qu'il a une certaine pudeur sur son amour, en tout cas exprimé de manière affective. Il ne commence pas par là. Et je réfléchissais un jour avec un rabbin sur la situation. Il me dit, mais ça montre bien la différence, dit-il, entre un chrétien et un juif. Le juif ne croit pas tout de suite en l'amour. Pour croire à l'amour, il faut qu'il se soit manifesté à travers les réalités concrètes. Quelqu'un qui obéit, et souvent dans un couple, dans une obéissance mutuelle, l'amour existe beaucoup plus profondément, beaucoup plus intensément que s'il était un simple sentiment. Alors il dit, il y a une parole terrible, dit-il, qui vient de saint Augustin et qui a fait un tort fou à l'Église, c'est « ama et facot vis ». Aime et fais ce que tu veux. Ce n'est pas saint Augustin qui a fait du tort, c'est la manière dont on a accaparé la parole, dont on l'a récupérée pour lui faire dire quelque chose qu'elle ne dit pas. Il faut aller la voir dans son contexte. Quand saint Augustin dit « aime et fais ce que tu veux », il dit « entre dans le pays », il veut dire « entre dans la », il explique d'ailleurs, entre dans l'amour de Dieu, et cet amour de Dieu va te rendre libre, de telle manière que ce que tu vas faire, ce que tu veux, ce sera la volonté de Dieu. Alors il dit, j'ai très peur d'une parole comme celle-là, parce qu'elle fait de la religion un sentiment. Et faire de la religion un sentiment, c'est exactement le contraire d'une religion. Et voilà comment il réfléchissait. Tandis que, dans le judaïsme, on nous dit « fais ceci, fait cela. Et si je fais confiance à celui qui me dit fais ceci, fais cela, je commence à aimer. Mais je n'ai pas besoin de le dire. Car si j'éprouve le besoin de le dire, c'est pour me justifier. Et il y a quelque chose là-dedans. Il faut aussi le laisser s'exprimer. Et c'est vrai que vous trouvez Dieu donc commandant tout le temps des choses. Ça commence, le Seigneur dit à Abraham. Donc il y a une relation. Alors, nous mettons l'accent souvent sur le commandement. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous commande? Prenons le début. Le Seigneur dit à Abraham. De même, lorsque vous voyez l'introduction au chapitre 20 de l'Exode des commandements, il ne commence pas de façon abrupte. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Ça n'a pas de sens de parler comme ça. À partir d'où? Qui parle? Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Par conséquent, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu as fait l'expérience d'une relation, tu ne vas pas aller chercher une relation ailleurs qui pourrait te satisfaire. Je suis le Seigneur ton Dieu de sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Y a-t-il autre manifestation? A-t-il manifestation d'amour plus grande que celle-là? Ça va introduire l'alliance, précisément. Et ici, on montre que dans des relations humaines, on dirait que ce sont même, hein, puisqu'on en a fait une théorie de documents, que ce sont des passages tirés d'un côté et de l'autre, et on en a fait un recueil, ça tient plus ou moins. Non, ça ne tient pas plus ou moins. Regardez chaque fois le rappel de la bénédiction, regardez chaque fois, tu deviendras père d'une multitude de peuples, ça peut vouloir dire évidemment fécondité physique, ça peut vouloir dire fécondité spirituelle, ça peut vouloir dire, mais il y a dans cette histoire d'Abraham, de quoi nourrir ta vie pendant des multitudes, à travers des multitudes de peuples et pendant des multitudes d'années. Il y a là un germe de vie. Et ce germe de vie consiste à dépasser progressivement, petit à petit, toutes les incompréhensions, les manques de communication, les divisions, les séparations, car il en existe, ils les prennent en compte, les violences que nous nous faisons les uns aux autres. Comment Dieu s'en tire-t-il avec tout cela? Et à la fin du cycle, au début du cycle d'Abraham, on parle de cette manière, et déjà vers la fin du cycle, quand Abraham naît, qui aurait dit à Abraham que Sarah allait traiter des enfants, car j'ai donné un fils à sa vieillesse? Qui aurait dit? Dieu l'a dit. Il a dit depuis le départ. Qui aurait dit? Et il nous pose la question. C'est Sarah qui nous pose la question. Hein. Elle a de quoi rire. Et nous avons de quoi rire. Qui aurait dit que Dieu s'en tirerait à travers tout ça, et s'en tirerait de cette manière? Qui aurait dit que Abraham, en se remettant totalement à Dieu, recevrait un fils à la deuxième puissance? Non pas seulement un petit garçon, mais un fils qui va devenir, lui aussi, père d'une multitude. C'est la fonction d'Isaac. Il n'a que cette fonction-là dans la Bible. On dirait que c'est un interlude. Il est entre Abraham et Jacob, mais il a la fonction de faire le lien. C'est un personnage un peu falot, Isaac. Hein. Il n'apparaît pas avec beaucoup de consistance. Mais il est l'enfant sur lequel la promesse repose. Qui aurait dit? Et ce qui est beau, dans ce que l'on dit d'Isaac, c'est qu'on nous porte presque immédiatement notre attention sur Rebecca. Isaac n'a presque pas de... Tout ce qu'il fait, c'est ce que son père a fait. Il répète, il imite. Ce qui montre qu'il est entré dans une tradition. Le texte veut dire, il est entré dans une tradition, celle d'Abraham, c'est-à-dire, il est dans la tradition de la foi. Mais, il ne fait pas grand-chose d'autre que d'imiter son père. C'est déjà pas mal. Même cette valeur-là de tradition, cette valeur traditionnelle de répétition, elle est présente. Il y a aussi une découverte que, dans le personnage de Rebecca, précisément, qui est important, Rebecca est une païenne qui vit encore dans un monde idolâtre. Toute sa famille est païenne. Et on dirait que quand elle entend la demande de « j'ai soif », en fait c'est ça, la demande de Eliezer, qui vient chercher une fiancée pour le fils de son maître, c'est tout de suite sa générosité profonde, cette présence de Dieu en elle qui se réveille et qui devient déjà extérieurement féconde parce qu'elle donne l'eau. La femme donne la vie. C'est pour ça que c'est elle qui va à la source. Elle va chaque jour à la source chercher l'eau et elle devient source dans la maison. Elle devient source de vie. C'est pour cela que c'est elle qui prépare normalement à manger, parce qu'elle est source de vie. Et il y a une petite aberration là, hein, quand Isaac est vieux, c'est que c'est pas la mère, enfin oui, la mère prépare à manger pour le premier repas, hein, celui que Jacob apporte, mais Ésaü le prépare lui-même, de façon beaucoup plus fruste, hein, comme un homme du désert. Tandis que la femme apporte justement cette capacité de percevoir les chemins de vie, là où on ne les aperçoit pas. Et vous voyez, on vient l'inviter, elle répond avec toute la spontanéité de sa vie, on voudrait bien la garder, ne pas la laisser partir, or elle, on voit qu'elle est presque impatiente de partir, on dirait qu'elle a déjà l'esprit d'Abraham en elle, quitte. Hein, déjà là, quitte ton pays. Et recevant l'invitation, cette fois-ci c'est pas le Seigneur lui-même qui parle, le Seigneur parle par l'intermédiaire, il vient de prendre des intermédiaires, par l'intermédiaire d'Eliezer. Mon Dieu est aide, c'est le sens du mot Eliezer. Eh bien, quand il parle, elle reconnaît quelque chose et elle bénit Dieu, le Seigneur. Et bénir le Seigneur, pour elle, bon, elle ne connaît pas encore Yahvé, bien sûr, elle ne connaît, hein, mais bénir le Seigneur, c'est vraiment coller, adhérer à ce sens fondamental de la vie qui est en elle. Alors que Sarah était un premier jalon, Ève est le tout premier jalon du chemin de l'Immaculée Conception qui aboutira en Marie, c'est-à-dire du chemin de la grâce qui reprend toute l'humanité jusque dans sa source. Eh bien, Sarah et Rebecca se glissent précisément dans ce chemin de grâce. Elles communient à la grâce. Et on dirait que, en communiant à cette grâce, et en restant elle-même, c'est-à-dire en mettant son voile sur son visage, le voile qui est en même temps une communion et une distance. Il y a de belles choses qui sont dites sur le voile dans l'islam. Elle attire, semble-t-il, Isaac dans une vie à deux qui fait qu'il l'aima. Isaac introduisit Rebecca dans sa tente, il la prit, elle devint sa femme et il l'aima. Mais il l'aima parce qu'elle a déjà fait tout un chemin. je dirais presque tout un chemin spirituel qu'elle a fait en solitaire. Justement, à partir de cette présence du Seigneur. Et on voit que, déjà, dans son milieu familial, elle opère un certain changement. Il faut voir aussi comment la tradition juive parle de Laban au début comme un homme intéressé. Tiens, il a vu les bracelets au bras de sa sœur et il se dit, tiens, oui, on va être poli vis-à-vis de cela, il pourrait nous donner davantage. Et vous voyez que de l'autre côté, Eliezer se retient de donner ses cadeaux tout de suite, à elle, oui, mais il se retient de donner ses cadeaux, il annonce d'abord ce pourquoi il est là. Et alors, on voit que son milieu familial, au moment où elle part, notre sœur, ô toi, devient des milliers de myriades, que ta descendance conquiert la porte de ses ennemis, hein, ta descendance, là, c'est toujours la promesse, conquiert la porte de ses ennemis. Ça peut vouloir dire, bien sûr, la guerre, la violence. Que ta descendance conquiert la porte de ses ennemis. Ça peut vouloir dire aussi, comme ça a été traduit, que tu t'établisses à la face de tes frères et que tu vives l'expansion de la grâce qui t'est faite. Et alors, vous voyez que dans cette femme, qui a été décrite comme une femme très, très ouverte, très spirituelle, très pleine de la grâce de Dieu, dans le ventre de cette femme, il y a une division qui est intérieure maintenant à elle. Et donc il y a une souffrance, comme en chacun d'entre nous. Il y a deux enfants qui se battent à l'intérieur pour savoir qui est le plus grand. La jalousie est... Et ce n'est pas elle qui la met au monde, mais elle est déjà là. Comme nous avons vu hier, il y a une sorte de réalité innée. Il y a deux nations en ton sein. Et ça, c'est dit de nouveau au début de l'histoire. Deux peuples issus de toi se sépareront. Un peuple dominera un peuple, l'aîné servira le cadet. C'est un oracle, hein. Et l'oracle est toujours énigmatique au départ. Et on voit bien qu'on veut expliquer pourquoi, hein, en sortant d'une même souche qui se sédentarisait, les uns sont redevenus nomades, Ésaü, hein, les tribus qui vivent dans les montagnes de Séir, c'est-à-dire dans le sud de la Jordanie actuellement, et Jacob, ceux qui vivent de l'autre côté du Jourdain. Donc, on veut expliquer cela. Il y a une même souche, il y a un même sein, et il n'y a pas deux femmes différentes. Donc c'est en quelque sorte beaucoup plus profond. Et cependant, même dans cette profondeur d'amour que peut vivre Rebecca avec Isaac, la division peut exister. Même dans les meilleures familles, il peut y avoir des ruptures. Même dans les meilleures familles. Mais l'aîné servira le cadet. Et ça, c'est une manière de faire de Dieu qui renverse l'ordre humain. Il y a solution humaine et solution divine, et qui sont toujours mis en parallèle. La solution humaine, c'est le cadet servira l'aîné. Quel droit a-t-il l'aîné ? Ce n'est pas parce qu'il est né d'abord qu'il a un droit. Hein? Le droit d'aînesse. Et ici, il y a une réflexion, dans l'histoire du droit d'aînesse, bien entendu, il y a une réflexion sur quels sont les processus humains qui suivent une coutume. Le premier, parce qu'il est le premier, parce qu'il est venu avant les autres, a une sorte d'autorité sur les autres. Et une responsabilité aussi. Le frère aîné, encore maintenant, par exemple, dans les familles arabes, c'est très, très profondément incrusté dans les familles. Dans les familles arabes, l'aîné, si le père meurt, par exemple, devient vraiment le père de ses frères et sœurs. il a dans un certain sens tous les droits paternels et tous les devoirs aussi. Et c'est pourquoi le fils aîné recevait toujours double part d'héritage. S'il y a cet enfant, on divise l'héritage en 8, et le premier a 2 parts. Pourquoi ? Ben pour compenser tous les frais qu'il devra faire pour éduquer ses frères et sœurs. Donc là, il y a un système. On pourrait avoir une autre institution, mais c'est l'institution de l'époque. Le droit d'aîné, c'est important. Et quand Élisée voit partir Élie, il lui demande justement une double part de sa prophétie. Il a, en quelque sorte, sur tous les autres frères prophètes, il a un droit d'aînesse. Ça, c'est l'ordre normal. Et Dieu agit en contre-pied, mais ce contre-pied veut montrer qu'il y a un renversement des valeurs. Pourquoi l'aîné aurait-il plus d'importance ?
Jean, est-ce que s'il n'y a que des filles, il y a aussi un droit d'aînesse ?
Normalement, non. Passe toujours au garçon, même si le garçon est le 7e ou le 8e. C'est souvent pour la raison pour laquelle, hein, quand il n'y a que des filles au début, hein, on continue de procréer pour avoir un garçon. Ce sont des sociétés patriarcales. Et pourtant, dans une société patriarcale comme elles sont là, il y a quand même une valeur donnée, même si elle paraît à première vue négligeable, une valeur donnée importante à ces femmes. D'où les matriarches. Vous pouvez voir justement toute la mentalité. C'est bien étudié par Catherine Chalier, qui connaît bien le Talmud de tous les commentateurs juifs. Alors, après cette histoire de la violence qui est déjà présente dans notre profonde intime, je dirais, dans notre réalité profonde, nous portons tous en notre sein, c'est-à-dire en notre vie, nous portons tous une division. Il y a du sauvage, il y a du colérique, il y a du doux, il y a du velu, il y a du lisse. Mais vous voyez, on exprime ça comme on peut par des détails concrets, humains. Et bien sûr qu'il y a un mensonge. Et vous voyez, Jacob ne fait ce mensonge dans un certain sens qu'à son corps défendant. Jacob, au départ, c'est aussi un caractère. Bon, il est un peu rusé, on voit bien, hein, avec la soupe lentille, là, il est assez rusé. Mais en même temps, cet homme rusé est aussi très obéissant à sa mère. C'est la mère qui réalise les choses. Et vous voyez déjà ici annoncer la mère de Salomon. Bethsabée, la mère de Salomon, qui va négocier, comploter avec le prophète Nathan pour mettre Salomon sur le trône. Salomon qui, à ce moment-là, n'a aucun droit. Salomon est non seulement le fils d'Uri, deuxième fils d'Uri, non seulement, mais il y en a d'autres, il y a d'autres frères aînés. Déjà qui sont supprimés ou qui sont tombés à la guerre, mais il y en a d'autres qui pourraient revendiquer ce qui se passe d'ailleurs. Alors, chacun reçoit sa bénédiction. Le père dit, ben voilà, il a pris la bénédiction, il restera béni. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le père reconnaît dans cette bénédiction qu'il a donnée un chemin de Dieu. Ce n'est pas le chemin habituel, mais c'est le chemin de Dieu. Donc, lui aura une sorte de bénédiction qui va déjà annoncer l'installation d'Israël en terre promise, tandis que l'autre va continuer à être nomade. Mais, chose étrange, voilà que, à partir de cette séparation de l'un et de l'autre, Pourquoi vous perdrais-je tous les deux en un seul jour? Voilà que Jacob s'entra. Jacob redevient nomade en quelque sorte. Nomade, mais pour aller vivre en sédentaire dans la famille de sa maman. Hein. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Chet. Si Jacob épouse une des filles de Chet, comme celle-là, une des filles du pays, que m'importe la vie? Isaac appela Jacob, il le bénit. Il lui fit ce commandement. Ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan. On va expliquer cette fuite de deux manières. Bien sûr, il doit fuir devant son frère, mais il doit fuir aussi devant l'idolâtrie. On dirait que l'idolâtrie de Canaan est encore moins bonne que celle de Paddan Aram. Va en Paddan Aram chez Bethuel, le père de ta mère, et choisis-toi une fois une femme de là-bas parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Et quel Shaddai te bénisse, qu'il te fasse fructifier et multiplier, pour que tu deviennes une assemblée de peuples. Vous voyez, on dirait que la bénédiction se fait plus fréquente. On la reprend tout le temps. Qu'il t'accorde ainsi qu'à ta descendance la bénédiction d'Abraham pour que tu possèdes le pays dans lequel tu séjournes et que Dieu a donné à Abraham. Isaac congédia Jacob. Celui-ci partit en Paddan Aram, chez Laban, fils de Bethuel, Bethuel l'araméen, frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Et justement, sur cette route, vous avez une première chose importante, c'est le songe de Jacob. Jacob, quitta Beersheba, au chapitre 28, verset 10, Jacob quitta Beersheba et partit pour Haran. Toujours ce chemin qui se fait vers le lieu de naissance. On retourne à son origine. Marie Balmary vous dira, retourner à son origine, c'est faire le chemin que l'on fait en psychanalyse. On fait une anamnèse. On repasse sa vie. Et c'est en repassant sa vie qu'on découvre les fils qui sont présents dans sa vie. Dit en termes d'écriture, c'est en repassant sa vie qu'on peut remémorer les différentes rencontres de Dieu qui ont jalonné notre existence. Qu'on n'a peut-être pas reconnu au moment même, on n'a peut-être pas dressé un autel, autrement dit, on n'a peut-être pas mis dans son agenda, hein, Pierre mémorable. Jacob quitta Beersheba et partit pour Haran. Il arriva d'aventure en un certain lieu et il passa la nuit. Car le soleil s'était couché. Ça vous rappelle l'alliance avec Abraham. Le soleil s'était couché. Et des choses comme cela, des détails comme cela qui se répètent dans l'histoire, ce sont des clins d'œil. Comme quand vous téléphonez, ces petits c'est ça, hein, qui maintiennent la communication. Ce sont tous ces détails dans la Bible, d'un bout à l'autre, maintiennent la communication entre l'écrivain et nous. Il prit des pierres du lieu, l'a mis sous sa tête.
Et on disait de Jésus qu'il n'avait pas une pierre pour,
il n'avait pas de pierre pour reposer la tête.
C'est un clin d'œil à l'envers.
Oui. Il n'y a même pas une pierre pour reposer la tête. Et ça rappelle aussi les pierres que l'on va tirer du Jourdain sur lequel on aura passé à gué. Et on les met autour d'une grosse pierre pour faire le petit sanctuaire de Gilgal. Sanctuaire de Gilgal. Dans le livre de Josué, quand on a passé le Jourdain. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était plantée en terre et que son sommet atteignait le ciel. Tiens, c'est l'histoire de Babel, ça. Hein? L'histoire de Babel. on voulait atteindre le ciel. Ici, il suffit d'une échelle, il ne faut même pas briqueter des briques. Et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Ça fait réfléchir la tradition juive, ça. Nous dirions descendait et montait, non? Leur habitation, c'est pas au ciel. Donc ils devraient descendre et monter. Pourquoi ils montent et descendent? Ah! D'où viennent-ils, ces anges? Est-ce que d'aventure, Jacob, c'était un ange? Est-ce que c'est la pensée de Jacob? Et toutes sortes de questions qui se posent, hein, à partir de monter et descendre.
Saint Paul reprend ça.
Oui, oui. Nul n'est descendu,
s'il
celui qui est monté. Oui. Voici que le Seigneur se tenait devant lui. Où? Au-dessus? En dessous? Et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Donc il y a toute une mentalité divine là, hein? Il y a toute une religion qui s'instaure entre ça, les anges de Dieu. Hein? Il y a toute une religion, c'est-à-dire une relation qui s'instaure entre Jacob et Dieu, et la divinité. Voilà que le Seigneur, cette fois-ci, on vous dira tout de suite, bon, donc deux documents différents. On parle de Dieu, puis on parle du Seigneur, donc entre le verset 12 et le verset 13, on change de document. Peut-être, mais pourquoi a-t-il mis les deux documents ensemble? Voilà que le Seigneur se tenait devant lui et dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. » Vous voyez, ça commence. Il y a un chemin de foi et de fidélité de Dieu qui se trace à travers les chemins, enfin les arbres généalogiques. La terre sur laquelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ça, c'est le Dieu de la descendance. La terre, vous voyez, il y a toujours les deux, la filiation et la terre, qui sont liés, les deux thèmes. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. La terre sur laquelle tu es couché. Il a déjà dit un certain nombre de fois. Pas la terre sur laquelle tu es couché. Quand on est couché sur la terre, hein, puisqu'il est là pour dormir, c'est un lit, c'est un repos, c'est un lieu de repos, le terme va revenir. La descendance, ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol. Il l'a dit à Isaac, il l'a dit à Abraham, pourquoi ne pas le dire à Jacob? Tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, on dirait que c'est encore beaucoup plus grand, au septentrion et au midi, expansion, et toutes les nations du monde, toutes les familles du monde se béniront par toi et par ta descendance. Si la bénédiction de Dieu est redite aussi souvent et de manière toujours stéréotypée, ça veut dire qu'elle est profonde, qu'elle est fidèle. Elle exprime justement, la répétition exprime cette fidélité de Dieu. On pourrait dire, si on y prenait garde, moi je le sais, hein, le lecteur le sait, oui. Mais il faut que le lecteur sache que Jacob le sait. C'est pas la même chose. Je suis avec toi. Vous voyez cette phrase qui revient, qui va arriver jusqu'à l'Emmanuel, l'Emmanuel d'Isaïe, puis l'Emmanuel de Saint Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des
saints. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire d'une autre façon, si c'est si souvent répété, c'est que Dieu doit souvent répéter devant nos hésitations aussi.
Évidemment, aussi. Mais ici, il change de...
Hein, personnage.
Il change de personnage. Donc, il faut montrer aussi la continuité, la fidélité de Dieu. Mais c'est vrai qu'avec Isaac, il n'est que répétition. Isaac répète ce qu'Abraham a fait, et Dieu répète à Isaac ce qu'il a dit à Abraham. Il le répète tout le temps, et pas seulement de lui, mais Rebecca le répète aussi. Et la famille de Rebecca le répète. Ça, c'est intéressant. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et te ramènerai en ce pays. Effectivement, de tous les personnages, de tous les patriarches, Isaac est le seul à rester dans le pays. Même il va bien à Guérar, hein, près de Canaan, mais il ne reste pas en Canaan, il ne fait qu'une visite. Tandis que Abraham a été en Égypte, il est venu d'ailleurs aussi. Jacob partira ailleurs aussi. Mais à Padanaran d'une part, puis en Égypte aussi. Tandis que Isaac, celui qui reste là. Dans la tradition juive, les trois personnages, Abraham, Isaac et Jacob, sont des symboles. Abraham symbolise la générosité première, la foi, et que l'on dit, que l'on exprime par le nom, le mot hébreu, chesed. Chesed que l'on traduit parfois par amour, parfois par tendresse, parfois par bienveillance. C'est un mot extrêmement difficile à traduire. La chesed, un chassid, c'est un pieux. Un chassid, quelqu'un qui a la chesed. La chesed, c'est l'amour spontané, généreux, de bienveillance, qui s'exprime avec surabondance. C'est ça la chesed. L'isère en amour, c'est cette générosité spontanée qui est liée à la vie. Chesed. Isaac, qui n'intervient pas beaucoup dans l'histoire, mais qui intervient pour transmettre, il est vraiment la courroie de transmission entre Abraham et Jacob et fils de Jacob, on l'appelle le din. Din, c'est l'injustice. La justice, le jugement. Bet din, c'est le palais de justice. Donc, din, c'est celui qui agit avec rectitude et qui défend le droit. Tandis que Jacob, qui va finir par se réconcilier avec son frère, et celui qui symbolise ce qu'on appelle Rachamim. Rachamim, ce sont les entrailles maternelles, le sein maternel. Et donc ça symbolise la miséricorde, la pitié au sens de miséricorde. La maman qui sent dans son cœur, hein, qui sent ses entrailles se retourner quand il s'agit de ses enfants, qui souffre la souffrance de ses enfants. Chesed din rachamim. Dit autrement, l'amour, le jugement, la miséricorde. Rachamim. Rechem. Je ne t'abandonnerai pas que je n'aie accompli ce que je t'ai promis. Donc Dieu manifeste de plus en plus sa fidélité. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, en vérité, le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas. Phrase de la dédicace d'une église. Le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas.
Bon, c'est la phrase suivante pour la dédicace.
Oui, il pleure. Et il dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu, Beth-El, et la porte du ciel. Petar Shamay. Que ce lieu est redoutable.
Et qu'est-ce que Jésus veut dire quand il reprend dans Saint Jean, au chapitre 1er, cette échelle avec les anges qui font l'ascenseur?
Oui, nous allons le voir justement, on va y venir. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Évidemment, vous comprenez que les Juifs se demandent, le Dieu, c'est quoi?
C'est le temple.
Oui, c'est le temple. Quel est le premier temple de l'homme? C'est son fils. C'est son fils. C'est son fils. C'est ses entrailles. C'est l'endroit où Dieu siège. Le temple n'étant que, après coup, une sorte d'expression de l'attente de Dieu, ça viendra après l'Exode, l'attente de Dieu au milieu du peuple. Il y a déjà un peuple ici, il y a encore une famille, un clan. Levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet, il l'adressa comme une stèle, et il répandit de l'huile sur son sommet. Ici, il y a déjà un rite. À ce lieu, il donna le nom de Bethel, maison de Dieu, mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Chapitre 1er de Saint Jean, il y a une découverte de qui ? De Jésus comme temple de Dieu, c'est-à-dire comme Messie, comme présence de Dieu sur la terre. Il l'a dit dans son prologue, bien entendu, et maintenant il va montrer comment les disciples, les premiers disciples, vont s'appeler les uns les autres à la suite de l'invitation de Jean le Baptiste, et ils vont découvrir par des titres différents qui est Jésus. C'est de nouveau, c'est une mémoire des disciples, après Pâques, ils disent, tiens, comment on l'a rencontré pour la première fois? Comment on le rencontre, suivant quel biais le Seigneur apparaît-il? Quelles sont les images que j'ai de Dieu, ou quelles sont les images que j'ai de Jésus? Quelle est celle qui me frappe? Quelles sont mes plus habituelles? Celles que j'aime, celles que j'oublie, celles que je n'aime pas, etc. C'est une manière de découvrir nos images de Dieu. Donc, au chapitre 1er, verset 35 et suivant, vous avez ces rencontres des disciples. Que voulez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi. Ce mot signifie maître ou demeure. Jésus est le fondateur d'une communauté. Il a un message. La manière dont on voit Jésus. C'est un homme, fondateur de religion éventuellement, qui a un message d'amour, un message de miséricorde. Beaucoup de chrétiens voient Jésus comme ça. D'une manière. André, le frère de Simon, était l'un des deux. Et nous avons trouvé le Messie. Là, c'est celui qui répond à nos attentes. Le Messie. Pas la même chose que le Maître. Celui qui répond à une autre manière de le voir. Celui que nous attendons, qui répond justement à ses attentes, c'est-à-dire le Christ. Passage de l'hébreu en grec. Il l'amena à Jésus, Jésus le regarda et lui dit, tu es Simon, le fils de Jean, tu t'appelleras Rocher, Képhas. Changement de nom, changement d'identité. Tu es Simon, fils de, Yahvé t'appellera Rocher. Rocher, c'est Dieu. Le rocher, dans les psaumes, le rocher, Dieu, le rocher, ma forteresse, etc. Pierre, quelque chose de solide, un repère, éventuellement une protection, on se met à l'ombre d'un rocher, qui veut dire pierre. Et vous pouvez vous demander aussi, tiens, pourquoi il traduit Messie, c'est-à-dire Christ, Képhas, c'est-à-dire pierre. Il veut dire que s'il l'est pour le peuple juif, il l'est aussi pour les autres. On passe d'une langue hébraïque à une langue plus universelle. Pas seulement pour qu'on connaisse la traduction. Le lendemain, Jésus se proposait de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit, suis-moi. Ici, c'est Jésus qui prend l'initiative. Philippe était de Bethsaïda, ville d'André de Pierre. Philippe rencontre Nathanaël. Il lui dit, celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé. Celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et les prophètes. C'est un lettré qui fait rapport à toute sa science. C'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. Là, ce sont vraiment ces dimensions historiques. On peut le prendre comme un homme. Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. De Nazareth, lui répondit Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon? Les gens de Nazareth disent encore la même chose. De Nazareth peut-il être. Et quand on leur dit, de Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Mais ce qui est bon à Nazareth, il n'en sort pas. Il y reste. C'est une allusion, aujourd'hui ça a beaucoup de sens, parce que c'est une allusion, beaucoup de gens de Nazareth quittent Nazareth et vont ailleurs pour essayer de trouver du travail, parce que c'est très difficile d'en trouver là-bas, il y a pas mal de chômage, et puis on n'est pas tellement tranquille, alors ils s'en vont ailleurs. Mais le pont de Nazareth reste. De Nazareth, lui répondit, peut-il sortir quelque chose de moi ? Viens voir, lui dit Philippe. Jésus vit venir Nathanaël et dit de lui, voici un véritable Israélite, un homme sans artifice. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Avant que Philippe t'appela, reprit Jésus, quand tu étais sous le figuier, quand tu étais en train d'étudier la loi, le figuier étant comparé à la loi, dont les commandements sont les fruits, un peu rébarbatifs à la vue, mais délicieux à l'expérience, au goût. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui répondit, Rabbi, le titre lui a déjà été donné, tu es le Fils de Dieu, Fils au sens d'envoyé, pas encore au sens où nous le prenons aujourd'hui, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Là, il y a une, à la fois, fils de Dieu, une ouverture maximale, aux gens certainement qui l'écrit. Tu es le roi d'Israël. Là, il y a cette dimension d'assomption de toute la vie, toute l'espérance, toute l'histoire d'Israël. Et il y a une progression dans les titres, il y a des aspects divers qui sont perçus. Il faut toujours prendre un texte dans son contexte, bien entendu. Jésus repartit. Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Donc j'ai de toi une connaissance intime. Tu crois parce que tu as découvert que je suis en toi. Tu verras mieux encore. Donc c'est le début d'une expérience. Il ne faut pas croire que cette expérience, c'est la fin.